ressuscité. À toi la victoire.
Chers amis, bonjour, Daniel Zavagno au micro. Qu'il me soit permis de vous souhaiter une bonne année. Je prie Dieu qu'il vous accorde sa protection et sa grâce en cette année, s'annonçant encore incertaine, mais nous croyons en la grâce de Dieu se posant sur chacun d'entre nous. Vous êtes ainsi connectés sur le site de l'Église protestante de Blégny. Je vous souhaite la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Que ce moment passé ensemble soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous voici de nouveau réunis en ce dimanche. Nous devons nous assembler virtuellement, mais nous savons que tu es présent. Et nous voulons croire que tu veux nous parler et nous enseigner en ce jour. Nous prions pour tous nos amis à l'écoute, te demandant de rejoindre leurs besoins, afin qu'ils puissent s'épanouir en ta présence. Seigneur, nous te demandons de bénir ton Église, qui depuis près d'un an se retrouve confinée. Nous te demandons de la fortifier, de la faire grandir. Merci pour ta présence et ton amour. Amen. Nous voulons commencer ce moment avec une chanson interprétée par Grégory Turpin. Elle a pour titre le psaume de la création.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé. Et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent,
Je désire m'entretenir quelques instants sur l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'on parle souvent du bon Dieu. Oui, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais il est aussi juste, et il ne tolère pas l'injustice ni la méchanceté. Le premier verset de la Bible me venant à l'esprit est un verset des plus connus, si pas le plus connu, c'est le suivant. Il se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Et il nous dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a vu l'état de ce monde et cette situation lui est devenue insupportable. Dieu décide donc de nous envoyer son Fils afin de sauver ce monde. Dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 9, il nous est dit ceci. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Dieu est Dieu, mais c'est un Dieu d'amour, car il a envoyé son Fils par amour, afin que nous connaissions son amour et nous soyons sauvés en sa mort sur la croix. Dès lors, le commandement de nous aimer les uns les autres est de règle. Si Dieu nous aime tel que nous sommes, nous devons alors nous aimer les uns les autres avec nos défauts. Et l'apôtre Jean dira une parole très forte, toujours dans la première épître au chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Oui, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde et nous aime d'un amour éternel. Et nous n'avons aucun mérite à l'aimer, car c'est lui d'abord qui nous a aimés, et quoi de plus naturel de lui rendre cet amour. Le psaume 86, le verset 5 nous dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Ce qui caractérise Dieu, c'est que Dieu est aimant et pardonne nos péchés si nous crions à lui. Et le comble de son amour, il a donné la vie de son Fils Jésus pour ses amis. Et il nous a considérés comme étant ses amis. Alors soyons dignes de son amour. Aimons-le de tout notre cœur. Écoutez ce beau verset. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Soyons en cette nouvelle année remplis de l'amour de Dieu, qu'il rayonne dans nos vies et qu'il se manifeste autour de nous, Jésus étant notre exemple. Nous trouvons dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35, ce qui suit. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » L'évangile veut dire « bonne nouvelle » et cette bonne nouvelle est remplie d'amour. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 12 et 13, il est mentionné cela « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Aimer. Aimer est un commandement venant de Dieu. Alors dans ce monde rempli de haine et d'intolérance, soyons porteurs d'amour, de l'amour de Dieu. Oui, des porteurs d'amour. Bien sûr, je le conçois, ce n'est pas facile de tendre la joue quand l'on nous a frappés. Moi le premier, j'ai difficile, je l'avoue. Mais que cette nouvelle année soit pour nous, chrétiens, un nouveau départ dans l'amour pour les autres et pour notre Dieu. Que dans ce monde rempli de haine et de violence, nous puissions nous distinguer par notre façon de vivre. Puissions-nous, nous chrétiens, apporter cette respiration de bonheur à ce monde. Je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter Christine et Tonino vous interpréter l'amour.
Plus fort que tout, l'amour, c'est l'oubli de soi. toi, je me sens libre et pardonné du poids de mes folies et mes regrets. Je sais que mon passé ne peut changer, et aujourd'hui je veux aimer.
Nous voulons demander la bénédiction du Seigneur sur le message que Jean-Luc va nous délivrer. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi réunis afin d'écouter ton message, ce que tu as à nous dire, afin que nous puissions avancer dans notre foi. Bénis notre frère afin qu'il nous apporte vraiment ce que tu veux que nous entendions. Merci mon Dieu. Amen.
Lors de notre dernière rencontre, c'est-à-dire le dernier dimanche de l'année dernière et le premier de cette année, nous nous sommes entretenus de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, selon le livre de Néhémie. J'aimerais, pour le partage de ce matin, utiliser un événement qui s'est déroulé quelque temps avant. Pour rappel, Dieu a suscité un réveil sous le règne de Cyrus, roi de Babylone, ce qui a déclenché le retour au pays promis d'une partie du peuple hébreu en exil. Une première phase reconstruira le temple de Jérusalem, rapporté dans le livre d'Esdras, et une deuxième vague rétablira la muraille entourant la ville, fait relaté dans le livre de Néhémie. Pour les détails, je vous invite à relire ces deux livres qui sont dans nos Bibles, mais qui au départ n'en formaient qu'un seul rouleau. Je lirai dans la version Second 1910, Esdras chapitre 3, versets 8 à 13. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Tchétzel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre, et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils de Juda, les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris, de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris, dont le son s'entendait au loin. Je compléterai par une deuxième lecture dans Éphésiens, chapitre 2, versets 17 à 22. Il, c'est-à-dire Jésus, est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Prions. Père éternel, autant tu pourvois à nos besoins matériels terrestres, autant tu veux nous nourrir de toi. Nous sommes persuadés que ta parole de ce matin sera plus qu'une simple croûte de pain sec, mais un repas complet pour nos âmes. Remplis-moi de ton esprit pour que je sois cet humble serviteur que tu demandes, et remplis-nous de ta bonté pour mettre en pratique ce que nous allons entendre. Qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Démarrer une construction est souvent un événement que l'on ne sait pas cacher. Actuellement, les bâtiments vont tellement vite que nous avons l'impression qu'ils sortent de terre et qu'ils poussent comme des arbres. Mais lors de la pose de la première pierre d'une construction importante, généralement les autorités sont convoquées et il en résulte une festivité en grande pompe. Pour ma part, chaque fois que je visite un édifice ancien important, une église, une cathédrale, un musée ou autre, ma question est toujours la même. Où est la première pierre? Dans notre récit, c'est un peu ce qui se passe. L'autorisation de reconstruire le temple a été donnée. Je suppose qu'un architecte ou maître d'œuvre en a délimité les mesures. Et c'est le grand jour. Les premières pierres de fondement vont être posées. Et le chantier de la maison de l'Éternel se met en route sous l'œil attentif des Lévites matures. Il nous est dit qu'ils avaient au-delà de 20 ans. Et ce n'est pas tout. Les sacrificateurs ont mis leurs plus beaux costumes, et les chantres, les fils d'Azaph, sont là avec leurs instruments. Pour rappel, les fils d'Azaph ont écrit et interprété toute une série de psaumes recueillis dans nos Bibles. Avec eux, nous sommes un peu participants de cette cérémonie de pose de première pierre. Et c'est parti. Les trompettes, les cymbales et les chants de louange en l'honneur de l'Éternel. Oui, bien sûr, ce n'est pas un dancing que l'on construit, c'est le temple de Jérusalem dédié à Yahvé, le Dieu d'Israël. C'est là que l'Éternel voulait que réside son nom. Et le verset 11 nous décrit l'ambiance de ce moment festif. Il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris, des grands cris de joie, en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Quelle joie, après près d'un demi-siècle d'exil et de ruines, le temple est reconstruit. Quand quelque chose de nouveau émerge, c'est toujours joyeux. Les débuts sont toujours en général heureux, d'où les réflexions « Oh, c'est un bon début !» Sauf que, dans le cas du temple de Jérusalem, ce n'est pas un commencement. Cet édifice a un passé. Le premier temple fut construit par Salomon, le troisième roi d'Israël, fils et successeur de David, le roi selon le cœur de Dieu. Ce qui est rebâti n'est pas l'épicerie du coin, de la rue, c'est le temple du grand roi Salomon à Jérusalem. Édifice mondialement connu. Ce genre d'événement ne passe pas inaperçu. Nous avons tous en tête l'invasion du Capitole à Washington. Ce n'est pas le braquage de la station d'essence de mon village qui sera diffusé en Mondiovision. Non, c'est la maison de Dieu qui est reconstruite. Alors, merci Seigneur, et gloire à Dieu, et tout le peuple pousse de grands cris de joie. Sauf que quelques vieux pleuraient. Des sacrificateurs, des lévites et des chefs de famille âgés éclatent en sanglots. Les responsables du temple et de ses services se souviennent de sa splendeur. Les patriarches de famille se rappellent la grandeur de l'édifice. Si on estime qu'ils avaient 20 ans lors de la destruction de Jérusalem et du temple en 587 avant Jésus-Christ, ils ont environ 70 ans en 536 avant Jésus-Christ. Leur vigueur n'est certes plus pareille, mais leurs souvenirs sont intacts. Les jeunes rient et chantent, et les plus âgés pleurent et se lamentent. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Agée, interpellera son peuple sur cet événement. Et je vous propose de lire dans le livre d'Agée, chapitre 2, versets 1 à 3. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. « Parle à Zorobabel, fils de Shedziel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? » Les anciens pleurent, parce que leur temple est reconstruit plus petit. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? La version Nouvelle Français Courant nous dit « Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle combien le temple était splendide autrefois? Or, que constatez-vous maintenant? Ne trouvez-vous pas qu'il ne ressemble plus à rien ?» Ah, la nostalgie! Devant ce verset, nous pourrions nous remettre tous en question. Selon l'Épître aux Éphésiens que nous avons lu, nous sommes en esprit un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous pourrions nous poser plein de questions, faire un bilan de vie, une rétrospective d'Église. Certainement qu'il y aurait des cris de joie, mais aussi des lamentations. Mais dans notre récit de pose de première pierre de la deuxième maison de Dieu, rapporté par Esdras, ce qui fait pleurer les plus âgés, ce sont les dimensions des fondements. La grandeur de la maison est estimée à ses bases. Rien n'est encore construit en hauteur, ni en ornement. Ce n'est qu'en voyant les fondements sur lesquels la maison de Dieu sera érigée qui fait bondir de joie les uns et fait s'asseoir de tristesse les autres. La vraie question que pose ce texte en rapport avec la lecture du prophète Agée est « Comment sont mes fondements ? Est-ce que le temps a usé mes bases ? Peut-être que l'épreuve de l'exil m'a tellement déçu ou meurtri que je ne me sens plus capable d'être le chrétien que j'étais jadis. Et le confinement n'arrange rien. Mais la reconstruction de la maison de Dieu est davantage portée vers l'Église. Quels sont nos fondements actuels ? Nous pourrions en déterminer 4. Très résumé. Le premier, évidemment, la Bible, révélation de Dieu. Et au cours du temps, est venu s'ajouter 3 autres. La tradition. Oh, nous avons toujours fait comme ça. La raison. Au XXIe siècle, nous devons pouvoir tout expliquer. Et l'expérience. Nous avons vécu plein de choses extraordinaires. Pour ma part, je mettrai en doute les 3 derniers cités, tradition, raison, expérience, s'ils ne sont reliés et confirmés par la parole de Dieu écrite, la Bible. Je ne veux pas être dans le jugement, mais simplement dans l'observation. Chacun fera son avis personnel sur certains thèmes, tels l'identité, notre identité, tel le mariage, tel la vie de l'Église, tel l'éducation des enfants, tel la liberté sexuelle, telle la liberté d'expression, telle l'argent, telle la démocratie, et bien d'autres. Les uns sont heureux, d'autres pleurent. Mais quels sont nos fondements? Ont-ils été réduits ou détruits? Que reste-t-il des communautés que nous avions connues il y a 50 ans? Peut-être que, comme le peuple de Dieu en exil à Babylone, nous nous sommes installés dans l'influence de ce monde terrestre. Alors que notre cité est dans les cieux, nous sommes citoyens du royaume de Dieu, nous faisons partie de la maison du Père, nous ne sommes pas de ce monde. Jésus est venu apporter la paix, et nous ne sommes pas en paix. Nous sommes tristes. Je suis triste de voir les fondements de mon Église qui s'effritent, qui sont réduits, qui ne ressemblent plus à rien. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus est en l'œuvre encore aujourd'hui. Même si nos voix, nos pleurs, nos cris sont couverts, nous devons continuer de proclamer « Christ est vivant ». Encourageons-nous les uns les autres. J'aimerais poursuivre la lecture de la prophétie donnée par Dieu dans le livre d'Agée, chapitre 2, versets 3 jusqu'à 9. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je me remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Notre Dieu encourage aussi bien les dirigeants que le peuple entier. Quoi qu'il arrive, quoi que vous voyez, quoi que vous pensiez, je suis avec vous. Je ne renie pas mon alliance, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. La gloire de cette dernière maison sera plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Cette prophétie annonçait la venue de Jésus qui, en 3 jours, pouvait rebâtir le temple et apporter la paix. Notre texte en Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est nous qui sommes ce temple, cette habitation de Dieu. Mais quels sont nos fondements? Paul dira aux Éphésiens que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je dirais sur le Nouveau Testament et sur l'Ancien Testament, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Cette première pierre qui va supporter le poids de l'édifice. Retirez-la et tout s'écroule. Nous en voyons les résultats dans nos sociétés chrétiennes qui se sécularisent, dans nos églises qui acceptent tout, dans nos dirigeants qui ne font plus la différence entre le bien et le mal. Alors cessons de nous lamenter sur notre passé révolu, et levons-nous, et bâtissons. Et si le travail est trop ardu, nous pourrons toujours semer. Tôt ou tard, il en restera toujours quelque chose. Je vous rappelle quelques promesses pour terminer. Dieu est avec nous. Dieu combat pour nous. Dieu anéantit les projets contraires. Dieu reste fidèle à son alliance. Son esprit est au milieu de nous. Et Jésus est notre paix. Alors, ensemble, levons-nous et bâtissons pour sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons nous souvenir de tes promesses. Nous voulons proclamer ta grandeur au milieu de nous, au lieu de nous lamenter sur notre sort. Certes, nous craignons pour nos santé, pour nos vies, pour nos enfants et ceux que nous aimons. Mais renouvelle nos pensées, notre vision, et arme nos bras pour te glorifier toi seul. Que ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, nous éclaire pour traverser ces temps de confinement qui certes commencent à devenir très longs. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui souffrent de solitude, pour le personnel médical et pour les dirigeants de notre pays. Que la gloire te revienne, à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Le chant que vous venez d'entendre a été interprété par le groupe Jeunesse en Mission. Nous continuerons notre rendez-vous de prière à la maison tous les mardis de 19 à 19h30. Merci de nous rejoindre et recevez la bénédiction selon 2 Thessaloniciens 3:16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.